I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir, ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
Je me suis longuement demandé, et ça fait partie, et je me demande encore parce que je sais toujours pas, on était en plein confinement, il y avait le Covid, j'ai perdu mon bébé, il n'y a pas d'explication, et on m'a pas testé quand même au Covid. Et ça reste une partie un peu floue, où je me dis, on sait pas, peut-être que ce virus m'a pris mon bébé, m'a volé une partie de ma vie, et je le saurais jamais. Je sais pas si c'est un choix qu'ils ont fait de pas tester, parce qu'ils ont pas de recul, parce qu'ils auraient peut-être pas pu interpréter, même si je l'avais eu ou pas, mais c'est pas simple. On est marqué à vie par la perte d'un bébé, mais je pense que toute ma vie, entendre confinement, Covid, dès que j'entends ces mots un peu, quand on dit ah oui pendant le confinement, moi ça ravive, j'ai eu l'impression à des moments que j'étais dans une bulle et que c'était pas réel et qu'il fallait que finalement je me batte vraiment pour me dire si j'ai perdu mon bébé, il est plus là, il faut que j'apprenne à vivre avec ça, il faut que je chemine, il faut que j'avance, il faut que je sois entourée et en même temps il a fallu un peu se battre, entre guillemets, pour avoir, pour être accompagnée correctement. Et là, je viens de sortir, un peu officiellement de cette bulle avec la reprise du travail. Et c'est pas simple, en fait. C'est vraiment pas simple. Parce que finalement, moi, j'ai fait le confinement, la fin de ma grossesse pendant le confinement. J'ai perdu mon bébé pendant le confinement. J'étais dans ma bulle. Et là, on est sorti de tout ça et... Et c'est un peu violent.
M. F. I. U. Un sigle glaçant qui laisse pantois, qui fait frissonner, qui interroge. Mort fœtale in utero. La mort du bébé dans l'utérus, dans le ventre de sa mère. Comment peut-on mourir avant de naître ? Comment expliquer que du jour au lendemain, ou en l'espace de quelques heures, le cœur de ce bébé que l'on attendait tant et qui n'allait plus tarder à venir au monde cesse de battre? Pourquoi? Pourquoi nous? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Mourir avant de naître, ça semble tellement impossible, inconcevable, irrationnel. Mourir avant de naître, c'est un non-sens, une aberration, une erreur. Mourir avant de naître, c'est le paradoxe le plus criant qui soit. Mais mourir avant de naître, ce n'est pas mourir avant d'avoir existé. Car ce bébé, il remuait dans le ventre de sa mère, il réagissait aux caresses, il donnait des coups, il formait des bosses à la surface de la peau. Il pouvait parfois être à l'étroit dans sa maison, mais il y était bien. Car une maman, c'est comme une maison, pour reprendre le titre du magnifique livre pour enfants d'Aurore Petit. Mais aussi impensable que cela puisse paraître, c'est dans cette même maison que la vie peut partir. Il y a un terme froid, dur et objectif qui décrit ce processus, la mort fœtale in utero. Comme je disais, ce n'est pas mourir avant d'avoir existé. Ce bébé était réel, il faisait déjà partie de la famille. Encore lové dans la maison maternelle, il avait déjà sa place, ses objets, ses jouets, ses vêtements dans la maison familiale. À quelques semaines ou jours de sa naissance, tout était prêt, les meubles montés. Il avait sa chambre. Il était presque là. Et quand tout bascule et que la mort intervient avant la naissance, toutes les fondations de la maison sont ébranlées. Et une maman, c'est comme une maison. Quand le bébé s'envole à l'intérieur d'elle-même, c'est comme une maison vide, avec une pièce vide. Et il faut réussir à cohabiter avec cette idée. La mort fœtale, pendant le confinement, c'est un raz-de-marée personnel, familial, qui entre en résonance avec une crise presque planétaire. Les mots « confinement » et « Covid-19 » n'auront jamais la même portée pour celles et ceux qui ont perdu un bébé dans ce contexte anxiogène, tant ces mots entrent en résonance avec une expérience traumatique qui a eu lieu en simultané. Et lorsque le drame et l'impensable surviennent pendant le confinement, cette maman se retrouve prise au piège de sa propre maison, dont elle ne peut pas sortir comme elle l'entendrait. Une maison qu'elle ne peut pas fuir, si elle le souhaite, où elle se sent perdue, ou trop étriquée, où elle étouffe, parfois. Une maison dans laquelle il y a une pièce qui lui rappelle son bébé parti trop tôt. Cette chambre, dont elle ne sait pas quoi faire. Mais cette maison, c'est aussi le foyer familial dans lequel un autre enfant vit peut-être déjà, et pour qui le monde doit continuer de tourner. Alors on convoque le motif familial impérieux qui figurait sur nos attestations de sortie. Une case à cocher pour venir aider le couple endeuillé pour essayer d'adoucir sa vie. Au bout d'un moment, cette maison, c'est le lieu clos où les parents se mettent à songer à ces grands espaces qui les attendent au dehors et vers lesquels ils se dirigeront dès qu'ils le pourront. Pour essayer d'avancer, de respirer, de vivre à nouveau, sans jamais oublier leur bébé parti trop vite. Au revoir podcast, épisode 4. Chloé, mourir avant de naître. Pour ce nouvel épisode, et le troisième qui évoque la période du confinement qui a eu lieu au printemps dernier en France, c'est la voix de Chloé que vous allez entendre. Chloé a 29 ans, elle vit en Île-de-France, elle est en couple avec Arnaud. Ensemble, ils ont une petite fille, Jade, qui vient d'avoir 3 ans. L'an dernier, Chloé et Arnaud se sont mariés, et ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que leur famille allait bientôt s'agrandir. Un test de grossesse sera réalisé quelques jours plus tard, alors qu'ils sont en voyage de noces, et ce test, il est positif. Au mois de mai 2020, la famille de Chloé, Arnaud et Jade comptera donc un membre de plus. La grossesse de Chloé se passe bien. Elle a de nombreuses contractions, mais il n'y a rien d'inquiétant. Elle avait connu la même chose lorsqu'elle était enceinte de Jade. En revanche, le suivi de son troisième trimestre de grossesse est complètement bouleversé à cause du confinement qui commence mi-mars. Chloé se rend donc seule à sa troisième et dernière échographie et découvre une atmosphère anxiogène et stressante dans le cabinet de son gynécologue.
Donc j'y suis allée un peu déçue d'être toute seule, mais contente quand même d'aller faire la dernière écho. Et puis finalement, je suis arrivée à un gynéco hyper speed, stressée de tout ce qui se passait autour. Toute la consulte a été très vite, puisque fallait perdre le moins de temps possible, toucher le moins de choses possible, enfin avec des précautions plus on va dire. Donc il m'a fait l'écho, tout s'est très bien passé à l'écho, c'était notre dernier rendez-vous, on n'allait plus se voir. Et du coup, en gros, il m'a dit, bah maintenant c'est la maternité qui reprend le relais, et on s'arrête là pour nous, on se reverra après l'accouchement. J'ai pas eu de compte-rendu écrit cette fois-ci, tout a été envoyé par mail via une application. Et il a sorti juste une photo pour mon mari.
Comme de nombreuses femmes, durant le confinement, Chloé se fait à l'idée qu'elle n'aura sans doute pas l'accouchement dont elle avait rêvé et réalise que son mari, Arnaud, n'aura pas la place de choix qui devait être la sienne. Jusqu'à présent, Chloé et Arnaud formaient une équipe de choc et se préparaient à un accouchement physiologique. Chloé allait donner la vie. Arnaud serait son coach, son partenaire, pour l'accompagner à supporter les vagues de contractions et l'accouchement sans péridurale. Ensemble, ils sont allés à tous les rendez-vous de suivi de grossesse, à tous les rendez-vous de préparation à la naissance. Mais avec la pandémie de Covid-19 et le confinement, les pères, et plus largement les coparents, sont bien souvent mis de côté.
Ça avait été très compliqué finalement au début, puisque je m'étais dit comment je vais faire. En plus, on s'était préparé à un accouchement physio, donc on s'était préparé tous les deux en plus, enfin il s'était investi dans la prise en charge, enfin, on avait fait l'hypnose, donc il était venu aux séances avec moi, on était en binôme finalement, et du coup je me suis dit comment je vais faire en fait s'il est pas là, parce que si j'arrive pas à gérer, c'est lui qui devait reprendre un peu le souffle et tout ce qu'on avait appris finalement, et je me suis dit que ça allait être un peu compliqué. Lui il a dit on verra, on va s'adapter, on verra au jour le jour, je serai là sur le moment venu, enfin voilà. Dans ma tête, je me préparais à faire toute la partie du travail toute seule, finalement. Jusqu'à peu près aux dates où on était, les papas étaient encore acceptés dans la salle d'accouchement. Et 2 heures après l'accouchement. Et après, terminé. C'était un petit peu compliqué. Les rendez-vous, ben, on n'avait pas trop le choix. Donc, on s'est dit, bon, bah, tant pis, finalement. Mais c'était frustrant pour lui parce que bah c'est aussi son enfant, il peut pas être là. Du coup on le vit pas pareil. En plus du coup on a plus rien sur papier. Enfin tout était envoyé par mail. Enfin voilà donc c'est un peu différent. Mais non vraiment c'était plus l'accouchement où c'était un peu angoissant.
Pour la suite de son suivi, c'est l'hôpital qui prend le relais. Un hôpital qui, pour minimiser les risques de transmission du virus, annule les rendez-vous sur place pour préférer les entretiens téléphoniques. L'expression en distanciel, qui est presque devenue une expression courante depuis le mois de mars dernier, prend ici tout son sens. Et ça se passe comment, en fait, un rendez-vous en distanciel quand il s'agit d'une grossesse ?
Finalement, on m'a annulé mon rendez-vous puisque j'avais vu le gynéco pas longtemps avant, donc ils m'ont fait une consultation vite fait par téléphone, en m'envoyant par mail tous les documents pour faire les prises de sang du dernier trimestre, tout ce qu'il fallait faire comme bilan. Et ils m'ont dit, on vous rappelle à 36 semaines pour votre rendez-vous. Si ça va pas, vous pouvez passer aux urgences, mais enfin voilà, y a pas de raison. On vous rappelle au téléphone et entre temps, prenez rendez-vous avec l'anesthésiste. Vous aurez rendez-vous par téléphone. Bon. Ce que j'ai fait, ça ressemble à rien. En tout cas, moi j'ai eu l'anesthésiste, il m'avait fait remplir plein de papiers. Enfin, j'ai eu 3-4 questions de poser, savoir par rapport à la grossesse d'avant, si j'avais des allergies. Et basta, ça a dû durer 3 minutes en tout et pour tout, et il a dû cocher sur son papier que je ne voulais pas de péri en plus, et ça s'est arrêté là.
Malgré tout, en raison des fortes contractions qu'elle ressent, Chloé n'est pas très sereine. Elle décide donc de se rendre aux urgences de la maternité le jeudi 16 avril, car elle a l'impression de moins sentir son bébé bouger et ne veut pas attendre le rendez-vous téléphonique des 36 semaines, qui doit avoir lieu quelques jours plus tard, le lundi 20 avril.
J'avais beaucoup de contractions et je pensais que j'allais accoucher, en fait. Tout s'est avéré à peu près normal d'après les bilans, les échos et tout ça. Et ils m'ont demandé de refaire un contrôle quand même le vendredi, 24 heures après, pour vérifier les mouvements du bébé, qui se sont avérés aussi corrects d'après le monito et tout ça. Et on m'a dit, on vous rappellera à 39 semaines puisque du coup votre rendez-vous de lundi des 36 semaines est annulé puisqu'on vient de faire un contrôle.
C'est plutôt rassuré que Chloé rentre chez elle, mais elle sent qu'elle va bientôt accoucher. Cela fait plusieurs jours qu'elle est très fatiguée. Pour la soulager, et sentant que le bébé va sans doute bientôt naître, ses parents lui proposent de prendre en charge Jade le lundi suivant, malgré le confinement. En effet, Arnaud, le mari de Chloé, est pompier, et il fait régulièrement des gardes de 24 heures. Chloé sait qu'elle sera seule pour s'occuper de sa fille en début de semaine, et accepte l'aide de ses parents, qui habitent à 500 mètres de chez elle. Toutefois, dans la nuit du lundi au mardi, Chloé sent bien que quelque chose ne va pas.
Il devait être entre 19h et 20h. Jade m'a appelée par vidéo de chez ma mère pour dire bonne nuit. Son petit frère bougeait beaucoup dans mon ventre. Donc on a fait la vidéo, on a rigolé, elle a fait coucou. Elle est partie se coucher sur finalement cette vidéo-là. Et moi j'étais pas très bien. Il y avait un truc qui allait pas trop bien, mais je savais pas vraiment quoi. Et puis j'ai voulu regarder la télé, j'ai regardé un peu la télé, puis finalement je suis montée me coucher, mais toujours pas très sereine, un peu espèce de pressentiment que il se passe un truc, mais j'arrive pas à savoir vraiment quoi. Quand je me tournais habituellement pendant la nuit, mon bébé bougeait en même temps que moi, enfin voilà, il se réveillait à chaque fois, il bougeait. Je commence un peu à paniquer, même dire oh, peut-être qu'il dort. Je me lève pour aller aux toilettes, il bouge pas du tout. J'ai commencé à paniquer. J'ai appelé Arnaud qui était de garde, pas de réponse. Et puis après, j'ai commencé à descendre les escaliers, à aller manger, enfin faire tout un tas de trucs qu'on nous dit finalement quand on les sent moins bouger, de boire du froid, du sucre, manger. J'ai tout fait. Et il se passait rien, je me suis mise à pleurer, enfin j'ai eu vraiment peur. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui était pas normal.
Chloé finit par joindre Arnaud qui lui conseille d'aller aux urgences. Au petit matin, il fait encore nuit. Chloé prend sa voiture. Elle n'a que 15 minutes de trajet pour se rendre à la maternité, mais durant ces 15 minutes interminables, elle supplie son fils de bouger, de lui donner un signe de vie, un signe d'espoir. Lorsqu'elle est prise en charge aux urgences, elle explique être déjà venue 3 jours auparavant. On l'installe aussitôt pour un monitoring, mais la sage-femme n'arrive pas à entendre le cœur du bébé. Une gynécologue prend le relais pour faire une échographie. Rien ne se passe. Tous les sons de l'échographe ont été enlevés, l'écran a été tourné. Chloé ne peut rien voir, ne peut rien entendre. À peine réagit-elle lorsque le médecin lui annonce qu'il n'y a plus de rythme cardiaque, que son bébé, son petit garçon, est décédé. Chloé est sous le choc. En quelques heures à peine, elle est passée brutalement d'une réalité à l'autre. Du bébé vivant en bonne santé, qui s'apprêtait à naître dans peu de temps, au bébé décédé. Et pour décrire cette dure réalité, il y a ce mot, la mort fœtale in utero.
Et au bout d'un moment, je dis, c'est pas possible, c'est pas vrai, enfin, je suis venue il y a 3 jours, et là, j'ai compris, elle m'a dit, c'est terminé, c'est fini, il y a plus, je suis désolée, et là, je me suis effondrée, enfin, j'arrivais plus à respirer, je faisais que pleurer, j'ai serré la sage-femme, enfin, qui me donnait la main, alors, enfin, je pense qu'au début, elle avait un peu hésité, puisque, bah, c'était, quand même, il y avait le Covid. Donc en plus on avait tous les masques, donc moi je suffoquais, enfin je pouvais plus respirer sous mon masque. La sage-femme me dit on va appeler votre mari, est-ce que vous voulez le faire ou nous on l'appelle? Et en fait j'étais incapable de l'appeler parce que déjà j'arrivais à peine à respirer, donc je me suis dit c'est pas possible. Et au fond je pense que je voulais pas être celle qui allait lui dire que c'était terminé, que son fils était mort, enfin je voulais pas dire ça, je voulais pas être responsable de ça en fait.
Chloé est ensuite amenée dans une autre salle, dans laquelle on va notamment lui faire faire de nombreuses prises de sang. En effet, les soignants et soignantes, face à une mort fœtale, vont tenter de connaître les raisons du décès du bébé. Parmi ces raisons, il peut y avoir des facteurs liés à la femme enceinte, diabète par exemple, possible infection qui peut être repérée grâce à des analyses sanguines justement. Par ailleurs, parmi les autres raisons qui peuvent expliquer la mort d'un bébé dans le ventre de sa mère, on retrouve les causes fœtales qui sont induites par des anomalies chromosomiques, ou encore par des malformations. Souvenez-vous, dans l'épisode 3 du podcast, Julie expliquait que les malformations cérébrales de ses filles auraient pu entraîner leur décès in utero. On peut aussi identifier des dysfonctionnements du cordon ombilical ou du placenta. Mais dans 30% des cas, ces morts restent inexpliquées. C'est le cas pour le bébé de Chloé. Autrement dit, il est mort, mais on ne saura jamais pourquoi. En France, la mortalité in utero, appelée aussi mortinatalité, représente environ 8 naissances sur 1000. Arnaud, prévenu par l'équipe médicale, a pu quitter son travail. Une fois qu'il a rejoint Chloé, on explique au couple les différentes étapes de cette journée, notamment le déclenchement de l'accouchement, qui se déroulera par voie basse.
Je me rappelle avoir posé la question quand Arnaud est arrivé, je vais quand même pas accoucher par voie basse, on va me faire une césarienne. Et elle m'a regardée, et je me rappelle, elle s'est assise, et elle m'a dit, si vous allez accoucher par voie basse, il y aura pas de césarienne, à moins d'une urgence médicale. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible, enfin, je vais jamais y arriver, je veux pas, en fait. Très vite, Arno m'a dit, mais tu vas y arriver, en fait, enfin, on est préparé, donc on va y arriver, il y a pas de raison, on va le faire, et ça va le faire, ça va aller. Et je pense que ça a été très important. De pouvoir le faire naître, même si la Sacha m'a dit qu'il ne naît pas. Mais moi, il est né, quand même. J'étais contente de l'avoir fait, aussi douloureux psychologiquement ça a été. Je suis très très contente de l'avoir fait et de l'avoir finalement sorti moi-même au final, puisque je l'ai sorti, mais en fait ça s'est tellement bien passé que je l'ai attrapé vraiment, en fait j'ai eu la possibilité de vraiment pouvoir le prendre, et c'était chouette. Ça fait bizarre de dire ça, c'était chouette, mais avec le recul c'était chouette. Et j'ai compris après qu'elle m'ait dit c'est important que vous le fassiez, et ce sera bien assez compliqué sans vous rajouter en plus les séquelles d'une césarienne derrière. Et je leur remercie parce que, franchement, oui, c'était important.
Après cette annonce, Chloé et Arnaud rentrent donc chez eux pendant quelques heures pour récupérer des affaires. Ils se rendent également chez les parents de Chloé pour voir Jade, leur petite fille. C'est Arnaud qui a la dure mission de lui annoncer qu'elle ne pourra pas rencontrer son petit frère. Même s'ils savent que l'accouchement peut avoir lieu dans les 48 heures, Chloé, dont le col est déjà dilaté, est persuadée qu'elle accouchera ce mardi 21 avril. Après son retour à l'hôpital, le couple est installé en salle de naissance pour patienter jusqu'à l'arrivée de ce petit garçon parti trop tôt, ce petit Paul.
On a beaucoup parlé sur le fait, enfin Arnaud a beaucoup parlé sur l'après finalement, ce qui allait se passer, qu'il fallait pas qu'on se dispute, qu'il fallait pas qu'on se déchire, enfin voilà, qu'on était ensemble, on était une équipe et qu'on allait, ça paraissait complètement irréel, mais qu'on allait se relever et que... et que même si ça, il nous arrivait ça, bah on allait affronter tout ça ensemble et que on allait y arriver quoi. Et je savais qu'il disait pour qu'on se rassure tous les deux, pour, alors qu'il était très 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 mal, et j'ai eu l'impression qu'à aucun moment il a voulu me montrer finalement que c'était difficile, parce que moi j'étais complètement effondrée et j'ai l'impression qu'il tenait pour moi un petit peu finalement. Je pense qu'on n'est pas resté 10 minutes tout seul, hein. Ils sont restés avec nous tout le temps, ils nous ont répondu à toutes nos questions, moi j'ai posé plein de questions, et moi j'avais très très peur de comment il allait sortir finalement. Et puis elle m'a rassurée, elle m'a dit quand il sera prêt à sortir et que qu'on le verra un petit peu, s'il y a pas de cordon autour du cou, s'il est bien, on vous dira. Et si on voit que ça peut être un peu compliqué, on vous le dit aussi, on le prend, on le nettoie, on l'habille et après on vous le ramène. Et au final, quand il est sorti, il était parfait en fait, très, très beau, tout parfait. Et elles m'ont regardé, elles m'ont souri, c'est bon. Et en fait, du coup, j'ai tendu les bras et je l'ai sorti, j'ai fini de le sortir. Et tout de suite, elles me l'ont mis sur moi et je l'ai gardé longtemps. Ça a été difficile, hein. Et je crois qu'on a pleuré tous les deux et avec Arnaud, et ça a été douloureux de voir que lui il pleurait pas, qu'il ouvrait pas ses yeux, qu'il finalement il bougeait pas, et en même temps hyper rassurant de qui ressemble finalement à ce que je m'étais imaginé, et que ce soit un bébé normal, hormis que moi j'avais l'impression qu'il dormait. Et en fait je l'ai eu en peau à peau tout de suite. Et en plus, chose que j'avais pas eu pour Jade, je l'avais eu sur moi, mais ils me l'avaient posé sur la blouse, sur tout ça, et là, en fait, elles me l'ont mis carrément en dessous, vraiment collé contre moi. Et à un moment, je me suis même dit, mon cœur, il bat tellement fort que ça va, le sien va rebattre, c'était un truc un peu, il se passait tellement de choses dans ma tête à ce moment-là. Et je l'ai serré, je me suis accrochée, et à aucun moment je me suis dit il va jamais se réveiller en fait. J'ai eu espoir longtemps, quelques minutes en tout cas. Et puis après voilà, j'ai bien compris que il resterait comme ça. J'aurais que cette image toute ma vie. Voilà. Mais je l'ai gardé longtemps. Elles me l'ont laissé longtemps, elles nous l'ont laissé longtemps.
Une maman qui aide son bébé à sortir, qui peut profiter de longues heures de peau à peau avec lui en salle de travail, qui demande au papa d'accompagner ce petit garçon pendant qu'il sera habillé. Cela ressemble à une vraie naissance, non? Et c'est bien une vraie naissance que Chloé pense avoir vécue grâce à des sages-femmes humaines qui ont tout fait pour accompagner ce couple endeuillé à accueillir Paul, ce petit garçon auquel ils avaient rêvé pendant 8 mois. Comme je le disais dans l'épisode introductif, j'ai moi-même eu l'impression de vivre une vraie naissance quand j'ai accouché de mon bébé décédé. Malgré la douleur psychologique et la difficulté pour elles de remplir cette mission qui fait pourtant partie intégrante de leur métier, la sage-femme et l'étudiante qui étaient présentes dans la pièce avaient grandement contribué à rendre ce moment plus doux, presque normal. Lorsque l'étudiante sage-femme était revenue avec ma fille, j'avais été frappée de constater à quel point elle s'en occupait comme de n'importe quel bébé, en la regardant, en lui parlant, en l'appelant par son prénom. Et je n'ose imaginer à quel point cela était dur pour le personnel hospitalier d'accompagner ce type d'accouchement dans le contexte d'une pandémie, alors que les masques, notamment, sont de rigueur et imposent une distance entre soignants et parents. En parlant avec Chloé, je me suis rendu compte que la dimension humaine, malgré tout, a pu reprendre le dessus sur des protocoles parfois complètement impersonnels.
Franchement, on a eu de la chance, on a eu une sage-femme et une auxiliaire du coup qui étaient là pour le bébé, vraiment au top. Moi j'ai accouché sans masque. Quand on était dans la salle d'accouchement, l'anesthésiste est venue, donc là on avait le masque, et en fait très vite après, elle nous a dit « laissez tomber ». Enfin, déjà je pleurais tellement qu'en fait il était mouillé. Je faisais que de me moucher. Il servait à rien du tout. Elle m'a dit, de toute façon, vous allez pas sortir de la pièce. Vous restez ensemble. Elle avait son masque. Donc, finalement, ni Arnaud, ni moi n'avions le masque. Elles ont fait du mieux, je pense, pour elle, pour se protéger au vu de la situation. Hormis qu'Arnaud n'a pas pu sortir de la pièce, j'ai pas ressenti, finalement, qu'il y avait le Covid et tout ça. Puisqu'elle m'a même pris dans ses bras. Enfin, elle m'a donné la main. Elle était proche de nous.
Paul est né vers 17h. Ce n'est que 3 heures plus tard que Chloé retourne dans sa chambre. Toutefois, elle ne restera pas dormir à la maternité et a obtenu l'autorisation de rentrer directement chez elle après avoir dit un dernier au revoir à son fils. C'est dans leur maison familiale, en plein confinement, que Chloé et Arnaud, qui ne retournent pas travailler, vont débuter leur deuil. Un deuil qui touche l'ensemble de leur famille, mais aussi et surtout leur petite Jade, qui se faisait une joie d'accueillir un frère. C'est pour cela que les parents de Chloé, malgré le confinement, vont être très présents, et que sa belle-mère et sa belle-sœur, qui habitent dans le sud, vont obtenir une autorisation pour pouvoir faire le trajet. Des présences nécessaires pour « tenir la baraque », comme explique Chloé, et s'occuper de Jade.
Ça a été très important et très bénéfique pour elle, puisque il y avait du monde à la maison. En plus, ma belle-mère habite loin, donc elle la voyait pas beaucoup dans l'année. Là, elle était là, Jade était très contente de la voir. Elle a posé beaucoup, beaucoup de questions, mais au début, que à moi. Donc, c'était pas toujours évident. Les premières nuits, ma belle-sœur dormait sur un matelas dans la chambre de Paul, du coup. Et Jade voulait dormir dans cette chambre. Elle m'avait dit un soir, ça devait être 2 jours après, elle m'a dit « Viens, on va dans la chambre, je dors là ». Elle connaissait le prénom. Quand est-ce qu'il arrive? Quand est-ce qu'il arrive? Bah, bientôt, bientôt. Enfin, voilà, c'était... Et du coup, on s'était allongé sur ce lit. Elle m'a dit « Moi, je veux dormir dans la chambre de Paul. » Ok, bon, si ça te fait plaisir, on y va. Et là, elle me met les étoiles, enfin, de sa veilleuse au plafond. Et elle me dit « Viens, on regarde les étoiles. » Oh, ok. Donc, ça a été des moments un peu compliqués. Et puis, finalement, elle pouvait dire qu'elle me disait « Mais t'es triste. » Elle m'a demandé beaucoup de fois si j'étais triste. Ce qu'il faisait... est-ce qu'il mange, est-ce qu'il joue, est-ce qu'il dort, est-ce qu'il va faire pipi, enfin voilà, est-ce qu'il va au pot, enfin tout plein de trucs comme ça. Et du coup, à chaque fois, je répondais en montant l'escalier le même soir après, puisque finalement elle voulait pas du tout dormir, elle voulait juste parler de son frère là-haut. Elle s'arrête au milieu de l'escalier et ça m'a marqué, et elle me regarde, je pleurais un peu, et elle me dit mais t'inquiète pas, ça va aller, t'en auras un autre, hein, maman. Oui, Jade. Alors pas tout de suite, mais du coup, voilà. Et puis je pense que c'était sa façon à elle de se dire, je vais pas rester toute seule. Moi, je veux un autre petit frère. Et elle a beaucoup réclamé les premiers temps un autre petit frère. Je veux un autre petit frère. Je veux un autre petit frère. Et ça a été un peu dur. Dès qu'elle pleurait, j'ai monté de lait énorme. Les cachets n'agissaient pas. Donc dès qu'elle pleurait, j'étais trempée. Donc ça devenait insoutenable, enfin je disais arrête de pleurer, et puis je m'énervais super vite en fait. C'était pas vivable pour elle, je voulais pas qu'elle voit que sa maman hyper triste, que son papa triste. Et elle disait, elle jouait avec ses poupées, elle disait les parents ils sont tristes, ils sont tristes du petit frère parce qu'il est pas là. Enfin elle a très très bien compris, elle rejouait plein de choses, elle vit les choses comme elle peut les vivre à 3 ans en fait. Et c'est pas toujours simple, et encore aujourd'hui, enfin voilà, elle m'en parle... très facilement, parce qu'à un moment donné, on lui a permis aussi d'en parler, de lui dire que si elle avait envie d'en parler, elle pouvait, si elle voulait être triste, elle pouvait, si elle voulait pleurer, elle pouvait, et c'est pas parce que moi je pleurais qu'elle était obligée d'être triste. Elle a le droit, d'être contente, d'être triste, et puis elle peut dire qu'elle est en colère parce qu'il est pas là, qu'il lui manque, qu'elle veut qu'il soit là, c'est pas évident. C'est pas évident avec toutes les représentations qu'elle avait, puisqu'on lui avait dit quand ira la maternelle, Paul il ira chez la nounou à ta place et toi t'iras à l'école. Et du coup là elle dit oui, mais je vais à l'école et j'ai pas de petit frère. Quand je vais pas bien, quand on est toutes les deux, et qu'il y a des fois où c'est plus compliqué, j'arrive pas à retenir, ou je pleure un peu, et qu'elle voit, elle vient, elle dit rien des fois, elle vient juste, elle me fait un câlin et après elle s'en va et elle fait une blague, un truc, enfin elle est chouette.
Mais comment se fait-on accompagner quand on vit un deuil périnatal assigné à résidence? Quelques jours après le drame, Chloé et Arnaud souhaitent débuter un suivi psychologique pour faire le point, mettre des mots sur leur peine, mais à cause du confinement, c'est un suivi uniquement à distance qui leur est proposé. Comme va m'expliquer Chloé, c'est compliqué, un suivi par téléphone. T'as besoin d'avoir quelqu'un en face de toi, mais en face, il n'y a que ton téléphone d'où sort la voix d'une personne que tu ne connais pas et dont tu n'as jamais vu le visage.
C'est pas par visioconférence, vraiment juste le téléphone. Donc on était en haut-parleur dans la chambre, à la maison, en plein confinement, donc avec Jade dans la maison. Et puis en haut-parleur dans la chambre, tous les deux, avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on connaît pas, c'était mieux que rien. Parce que ça permettait de mettre des mots là où c'était très compliqué, il y a eu vraiment de très gros bas. Ça a pu permettre aussi à Arnaud dans ces moments-là d'expliquer ses peurs et tout ça à la psychologue. Avec le Covid, du coup, elle avait plus de bureau, donc il fallait qu'à chaque fois elle trouve un bureau pour se mettre, ne pas être dérangée. Elle était dérangée de temps en temps, donc ça coupe l'échange. Et puis on est au téléphone, donc on voit pas les mimiques, on voit pas les Bah, il y a des blancs, mais on se rend pas bien compte. Moi, je m'effondrais derrière le téléphone. Bon, je pense qu'elle comprenait, hein, que j'étais en train de pleurer, mais du coup, c'est pas du tout la même chose. Et puis, on était trois à interagir au téléphone. Et bah, c'est pas évident, parce que des fois, il y en a un qui dit quelque chose, l'autre veut réenchérir, mais du coup, on se voit pas, donc on n'interagit pas pareil. Et puis, il y a eu bah, les fois où... Ben, elle est pas dispo exactement en ce moment-là, puisque ben, y a une réunion, mais comme on n'est pas en présentiel, donc elle rappelle un quart d'heure après, donc en soi, c'est pas très très grave, hein. Des fois, on va chez le médecin, ils sont en retard. Sauf que là, ça demandait une organisation particulière avec Jade à la maison. Donc on s'est retrouvés à des consultes où Arnaud, il sort quatre fois de la pièce parce que le dessin animé a bugué et que... Et que du coup, bah, il faut aller remettre, ou parce que Jade, bah, qu'est-ce que vous faites, ou bah, pourquoi tu pleures, je veux aller faire pipi, enfin... Donc en fait, des consultations un peu entrecoupées, et encore dans l'ensemble, elle a été adorable, parce qu'elle a regardé le dessin animé pendant une heure à chaque fois. Et puis il y a eu les fois aussi où ben, le problème de téléphone, j'appelle, elle rappelle pas, et puis l'heure est passée, et en fait elle rappelle une heure et demie après en s'excusant, mais ben, du coup j'aurais pas ma consulte, parce que le temps était passé, et que ben, elle a plus le temps en fait.
Le deuil périnatal, en fonction du terme de la grossesse auquel la mort survient, c'est un deuil qui nécessite aussi de faire du tri dans les affaires, de faire des cartons. Le bébé parti trop tôt de Chloé n'a jamais vécu dans la maison, et pourtant une pièce lui était réservée. C'était sa chambre. Enfermée pendant le confinement entre les quatre murs de ce foyer, Chloé a ressenti très tôt, peut-être trop tôt, le besoin de ranger cette pièce qui n'accueillerait jamais son petit Paul.
J'ai très vite rangé la chambre, et en fait j'avais très peur que la chambre reste vide, et je m'étais mis en tête de du coup tout déplacer, enfin inverser les pièces là-haut. Je voulais que cette chambre elle vive et pas qu'elle soit vide, et en fait j'ai tout rangé. Mais très vite, j'ai voulu le faire toute seule. Enfin, tout le monde m'a proposé de l'aide. Hein. Mes parents m'ont demandé si je voulais qu'ils viennent pour m'aider à le faire. Et en fait, j'ai envoyé un peu péter tout le monde, enfin, disant que non, je le ferais toute seule. Même Arnaud, au début, je voulais même pas. Enfin, il a subi. Franchement, quand je m'entends, je me dis, il a pas eu le choix en fait. Je voulais le faire toute seule. J'avais besoin de ce moment à moi, donc j'ai mis du temps. Hein. J'ai mis une journée, enfin voilà, pour ranger. Et finalement, on a rangé la chambre. J'ai rangé la chambre. Arnaud est venu à un moment donné pour ranger les meubles, enfin démonter les meubles et tout ça. On a fait tout vide et on a laissé vide quelques jours. Je pense que c'est là où ben j'ai réalisé que ben, c'était terminé et que et qu'en fait j'avais été très très vite et j'ai sombré en fait. Hormis le 21 avril, je pense que c'est les pires jours enfin après de ma vie vraiment, et je me suis dit mais enfin pourquoi j'ai fait ça vite en fait, et je suis restée plusieurs moments après dans la chambre vide à être là à pleurer, et en fait on me disait enfin tu peux pas rester à pleurer, c'est pas possible, enfin donc j'ai pris sur moi et on a tout déménagé en fait, donc mes beaux-parents sont passés dans cette chambre là pour dormir, et en fait du coup bah j'y allais plus, et ça a été très 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 compliqué pour moi. Je voulais partir, je voulais plus être là, je voulais plus voir tout ça, plus voir les cartons, plus rien voir. Mon terme allait arriver et je voulais pas être là au moment où j'aurais dû être là avec lui, et en fait on n'y sera pas.
Alors à la fin du confinement, Chloé, Arnaud et Jade sont partis tous les trois. Parce que même si Chloé parle d'une bulle dans laquelle elle s'est sentie protégée vis-à-vis des autres, le besoin de quitter cette maison dans laquelle ils auraient dû être quatre se fait de plus en plus pressant. Alors, aux alentours du 11 mai, qui signe le début du déconfinement, ils partent pendant plusieurs semaines pour rejoindre leur famille. À leur retour, la chambre de Paul a trouvé une toute autre fonction.
Et puis quand on est rentré après, bah j'ai réintégré finalement voilà cette chambre. Enfin voilà, j'y ai passé du temps. Elle a beaucoup bougé depuis que j'ai rangé les affaires de Paul. C'est devenu la salle de jeu de Jade, mais en fait parce que Jade elle a tellement investi cette chambre aussi que ben du coup je voulais pas la fermer, je voulais pas que ce soit un sanctuaire non plus, enfin, et en fait je voulais qu'il y ait de la vie, et finalement ben c'est Jade qui a récupéré en salle de jeu, et il y a encore voilà, il y a la peinture qu'on avait choisie, il y a la déco qui était là, il y a des choses à lui qui sont dans cette pièce, qui resteront dans cette pièce, parce que c'est voilà, moi quand je pense c'est la chambre de Paul. Alors maintenant Jade elle dit la salle de jeu, mais c'est chouette, enfin parce que bah il y a un peu de lui et puis il y a beaucoup d'elle quoi.
En préparant cet épisode, plus j'écoutais les mots de Chloé et plus je me disais qu'Arnaud et elle formaient une véritable équipe, une équipe qui s'était entraînée pour vivre un accouchement naturel et physiologique. Mais si rien ne s'est passé comme prévu, c'est une équipe qui a su affronter ensemble, main dans la main, la mort de ce deuxième enfant. Chloé le dit elle-même. Paul lui a donné une force qu'elle ne soupçonnait même pas avoir. Et lorsqu'elle décide de s'imposer des challenges et des défis pour que son fils, où qu'il soit, soit fier de sa maman, Arnaud la suit, même quand il s'agit de randonner en pleine nuit pour faire l'ascension d'une montagne corse et voir, de là-haut, le lever du soleil.
On s'est rendu compte que c'était 6h17, le lever du soleil, là-haut. Ok, sauf que c'est la nuit et qu'il y a 3 heures de montée, donc il faut être au départ de la rando à 3 heures du mat. Et on s'est lancé. On n'était même pas garé que j'avais déjà envie de pleurer, parce que il y avait déjà des vaches, des sangliers. Enfin, j'ai eu très 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 peur. On est monté en 2h30 et j'ai pleuré, je pense, près de 2 heures. Et j'ai crié sur Arnaud à peu près 2 heures. Pourquoi on fait ça? J'en ai marre. J'ai peur. Avance, t'arrêtes pas. Enfin voilà, ça a été assez folklore. On est monté à la frontale, parce que on voyait rien. Et arrivé à peu près à la dernière partie, il reste peut-être 30 minutes, 20 minutes de montée. C'est vraiment des rochers, faut escalader. On était presque arrivé et là, j'étais décompressée et je pleurais. Clairement, je l'ai fait pour Paul, je voulais être là-haut, pour lui, pour voir, être un peu plus près, un peu plus haut, On est arrivé plus tôt, du coup, puisqu'on avait, on a marché très très vite. On a vu le coucher de la lune. Donc juste magnifique, et le lever du soleil derrière, c'était juste magique. Tous les deux, on s'est dit on l'a fait et on l'a fait pour Paul, parce que sinon, jamais de la vie, j'aurais fait la rando de nuit au milieu des animaux. Non, jamais. J'ai l'impression de plus avoir peur et qu'en fait, il y a plus rien qui peut me faire plus de mal de toute façon que ce que j'ai déjà vécu. Tout ce qui tue pas rend plus fort, c'est exactement ça en fait.
Aujourd'hui, Chloé en est certaine. Son petit Paul n'est plus sur Terre, mais quoi qu'il en soit, elle est la maman de 2 enfants, Jade et Paul.
À partir du moment où mon test il est positif, j'aime déjà mon bébé, même avant, je pense, à partir du moment où je décide de faire un enfant, j'ai l'impression que je l'aime déjà. J'étais vraiment en connexion avec Paul, je l'avais été pour Jade, mais j'ai l'impression que c'était encore autre chose pour Paul, là, qu'on était vraiment connectés, et en fait, il est plus là, mais je me sens quand même... sa mère, je partage plein de trucs avec lui parce qu'en fait, je lui parle. Il est dans nos conversations, il fait partie intégrante de ma vie, en fait. Même Jade, en fait, elle dit mon petit frère. Alors, il est pas, elle dessine sa, c'est très représentatif, elle dessine sa famille à l'école. Elle nous a dessiné tous les 4.
C'est sur cette note d'espoir, sur ce lever de soleil en Corse et sur ce dessin d'une petite fille de 3 ans qui représente sa famille au complet que se termine cette série de 3 témoignages de mamans qui ont toutes vécu la perte d'un bébé pendant le confinement. Chloé, maman de Gabriel qui a traversé l'épreuve de l'IMG, Julie et sa grossesse qui se termine soudainement au tout début du second trimestre, et Chloé, maman de Paul, confrontée à la mort fœtale in utero. 3 parcours différents, des circonstances différentes, mais aussi des trajectoires individuelles différentes. Julie et Chloé, la maman de Paul, ont vu la prise en charge de leur grossesse bouleversée par la pandémie et ont appris seules la mort de leur bébé. Tandis que le confinement a obligé Julie à décaler son travail de deuil car elle ne pouvait pas avoir de temps pour elle, les mamans de Paul et Gabriel ont admis que cette période pouvait aussi être positive et constituer une parenthèse. Parler de la perte d'un bébé pendant le confinement, c'est comme utiliser un projecteur qui viendrait mettre en lumière des problématiques importantes du deuil périnatal. L'importance de faire une place au père ou aux coparents, l'importance de prendre du temps pour soi, dans une bulle, la nécessité d'avoir des équipes médicales à l'écoute, par exemple. Je remercie ces 3 femmes puissantes d'avoir accepté de témoigner alors que la perte de leur bébé pendant ce confinement était encore très récente. Merci d'avoir notamment montré que malgré la tristesse, on peut rester vivant. Vivant malgré tout, pour reprendre les mots du morceau Sainte Victoire de Clara Luciani. Et parler de leurs expériences, c'est aussi ma manière à moi, aussi modeste soit-elle, de donner la parole à ces mamans qui n'ont eu aucune visibilité dans les médias, qui n'ont pas tenu compte de la perte d'un bébé dans leurs articles sur les suivis de grossesse et les accouchements pendant le confinement. Je te remercie Chloé de t'être livrée et de m'avoir raconté ton histoire alors que ton congé maternité touchait à sa fin et que tu vivais une nouvelle étape, la reprise du travail. Merci d'avoir évoqué pour ce podcast ton histoire qui est aussi celle de toute ta famille, d'avoir su trouver les mots pour décrire cette épreuve et d'avoir souligné le fait que maintenant, tu avais trouvé chez toi une force incommensurable, proportionnelle à l'amour que tu portes pour ce bébé parti trop tôt. Je suis sûre que cela fera du bien à de nombreux parents de savoir que cette force peut être apportée demain. J'envoie toutes mes pensées à ton petit Paul, qui doit être très fier de sa maman, mais aussi à Jade, une grande sœur extraordinaire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite. Et en attendant les prochains épisodes, je laisse à Chloé le soin de remercier deux personnes qui ont été ses piliers dans les moments les plus difficiles.
Bah, Arnaud et Jade, c'est vraiment les petits sourires de Jade et la présence d'Arnaud. Je pense que c'est ce qui m'a remonté. Clairement, elle m'a sauvé la vie, en fait. Mais c'est vrai. Quand elle sera grande, quand je lui dirai ô combien je la remercie. Parce qu'à chaque fois, elle a su me prendre dans ses bras, me dire ça va aller, maman, elle a 3 ans et c'est juste dingue, en fait. Et elle sourit tout le temps et en fait, dans les moments très 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 compliqués, c'était difficile. Il y a eu des fois où j'ai culpabilisé de pas pouvoir m'occuper d'elle et en même temps, elle est là et elle te dit je t'aime très 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 fort, je te aime très 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 fort et tu dis moi aussi et en fait tu peux pas la laisser tomber, tu peux pas laisser tous les deux, enfin c'est pas possible, il faut remonter, il faut se battre.